Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
C'est le nouvel an, meilleurs vœux à vous toutes et à tous. C'est le moment du journal, tout d'abord les titres. Le remède pour la paix au Burundi, c'est la solidarité et l'entraide entre les Burundais. La solution est suggérée par le président Evariste Ndayishimiye. C'était hier dans son discours à la Nation à l'occasion du Nouvel An. Mais il en faut davantage pour le retour de la paix, estime le docteur Jean Minani, président du CNARED, pour qui les Burundais ont encore du pain sur la planche pour y parvenir. Et puis, Evariste Ndayishimiye continuerait-il à se montrer reconnaissant envers des criminels? C'est en tout cas ce que nombre d'observateurs pensent après la nomination du commissaire Bertin Gahungu, cité dans de nombreux cas de crimes, au poste d'attaché de sécurité à l'ambassade du Burundi à New York. Vous suivrez son portrait, plutôt sinistre, dans ce journal. Les cas d'abandon scolaire inquiètent de plus en plus. Nous plongerons au cœur des écoles de la province de Bubanza, où ce phénomène s'aggrave suite surtout à des mauvaises conditions d'études. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
La solidarité et l'entraide, c'est ce que le président Evariste Ndayishimiye demande au Burundi dans le but de consolider la paix et la sécurité au Burundi. Au cas contraire, le président indique que les ennemis du pays peuvent en profiter pour déstabiliser le pays. Il l'a dit ce vendredi lors de son message à la Nation à l'occasion du Nouvel An.
La sécurité et la paix sont indispensables pour la vie d'un pays. C'est très bien que tout le pays est paisible, mais puisqu'il y a des gens qui ne rêvent que du mal pour notre pays, il faut que nous restions vigilants. Chaque Burundais doit viser les forces de l'ordre sur tout ce qui ne va pas. À ce qui nous concerne, nous continuerons à mobiliser la population, à consolider la cadrologie constituée par les forces de l'ordre, l'administration, la justice et la population. Dans son domaine, nous voyons que les Burundais ont besoin d'être éduqués en matière civique et doivent changer de mentalité pour qu'ils sachent leurs droits et leurs devoirs.
Le chemin est encore très long pour que la paix soit une réalité au Burundi. Le constat est du docteur Jean Minani, président de la plateforme de l'opposition CNARED. Il explique que tant que la justice burundaise ne fera pas correctement son travail et tant qu'il y aura de graves violations des droits de l'homme, on ne pourra pas parler de paix, sinon on sera en train de tromper l'opinion. Le docteur Jean Minani appelle le gouvernement burundais à rectifier le tir pour ramener la paix et la sécurité au Burundi. Il a lancé cet appel ce 1er janvier, journée mondiale dédié à la paix. On l'écoute.
Aujourd'hui, il y a encore des disparitions forcées, il y a encore des gens torturés, que la justice ne fonctionne pas comme il faut. Les organisations de défense des droits de l'homme font état chaque jour des disparitions forcées, des meurtres, des assassinats, ici et là. On trouve encore des cadavres éparpillés ici et là. Et chaque semaine, chaque mois, on en dénombre tellement qu'on peut se demander réellement s'il y a la paix. Au moment où il y a plusieurs centaines de milliers de personnes burundais qui sont en exil, comment on peut parler de paix? Pour nous, il n'y a pas la paix, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix lorsqu'il y a encore des gens qui disparaissent, des gens qui sont arrêtés arbitrairement, lorsqu'il y a des grenades dans des bars, lorsqu'il y a encore des cadavres qu'on trouve ici et là. Espérons que, avec les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État, à cette date-là, nous pourrons parler de paix. Mais il y a un long chemin à faire.
Dans le domaine de la justice, le président Evariste Ndayishimiye a indiqué que c'est un secteur solide aujourd'hui, car le gouvernement a corrigé beaucoup de failles. La majorité des dossiers judiciaires sont des conflits fonciers, des conflits familiaux, qui seront résolus grâce à la réhabilitation de l'institution des notables collinaires, toujours selon le chef de l'État qu'on écoute.
Magisata cy'ubutungane twitwararitse cyane gutora umuti
Dans le secteur de la justice, notre souci est de trouver une solution durable aux préoccupations de la population dans son domaine. Les lamentations des justiciables sont nombreuses et la file persiste suite au mauvais passé du pays. Et certaines lois qui deviennent caduques doivent être révisées. Les autres défis sont liés au mauvais comportement de certains magistrats, mais ce qui est sûr, le domaine de la justice est solide aujourd'hui, car on a beaucoup corrigé. La majorité des dossiers judiciaires sont des conflits fonciers, des conflits familiaux. Il s'avère pertinent de réhabiliter l'institution des notables collinaires. Ces notables connaissent bien des problèmes à la base. Ils pourront beaucoup contribuer dans la résolution de ces genres de contentieux.
Le réseau des citoyens probes comprend mal comment le président de la République, Évariste Ndayishimiye, met en avant les procès liés aux conflits fonciers et familiaux. Pour Gervais Nevigila, vice-président du RCP, la justice devrait d'abord se soucier des cas de crimes politiques et des autres violations des droits de l'homme commises au Burundi, surtout depuis 2015. Suivez-le.
Aujourd'hui, il a tendance à négliger et le problème qui mine la justice burundaise. Il montre que le problème de la justice est lié surtout aux litiges fonciers et aux litiges des cas sociaux. Mais en réalité, au Burundi, nous savons qu'il y a des procès politiques qui ne sont pas bien tranchés. Et nous savons qu'il y a aussi des procès en rapport avec ceux qui sont accusés d'être des opposants aux partis au pouvoir et qui ne sont pas bien traités convenablement, conformément à la loi. Mais aujourd'hui, il veut montrer et qui va mettre beaucoup plus de l'énergie sur les notables. Alors que nous savons, au Burundi, il y a de grands dossiers qui impliquent surtout ceux qui sont au pouvoir, mais qui ne sont pas inquiets. Donc aujourd'hui, alors, cela montre qu'il veut mettre la justice dans ses mains.
En ce premier jour de l'an 2022, les Burundais en exil expriment leurs vœux pour le Burundi, la paix. Tel est leur leitmotiv. Pour arriver à cette paix, ces Burundais réclament le respect des droits humains et la fin de l'impunité des crimes contre la population. On écoute ces Burundais en exil qui s'expriment au micro de la radio Nzamba Agathe Kakawe.
Mes vœux pour l'an 2022, c'est que vraiment le 2022 soit synonyme de paix, soit synonyme d'amour. Les esprits au Burundi sont traumatisés, sont malmenés, sont fatigués de l'injustice, de la cruauté, de la criminalité, de la barbarie de la part des gens qui ont le pouvoir. Vraiment que ces esprits-là retrouvent la joie de vivre dans leur dignité.
Il faut que le Burundi redevienne pour cette année 2022 un pays fréquentable, un pays où on peut vivre paisiblement. Un pays où il n'y a pas de disparition forcée, d'enlèvement, d'emprisonnement arbitraire. Ou un pays de paix et de miel. Faut que cette année 2022, nous les réfugiés, nous retrouvions notre pays. Un pays où on peut faire ce qu'on peut faire sans s'inquiéter.
C'était pour le moment un réfugié burundais. Je voudrais souhaiter les meilleurs vœux de Noël à tous les Burundais où qu'ils se trouvent. Qu'il soit une année de couvrir notre Burundi jadis de lait de miel, mais malheureusement confisqué par le pouvoir sectariste et divisionniste du CNDD-FDD, qui est Dieu et de le Burundi.
Moi, comme refusé, ce que je souhaite pour notre pays est une paix pour tous les Burundais. La justice équitable pour tous. La question des réfugiés soit une priorité pour que tous les réfugiés et les politiciens rentrent pour construire notre chère patrie. J'exhorte aussi les autorités burundaises à respecter les droits de l'homme afin que les pays européens puissent lever les sanctions pour que les bailleurs de fonds viennent investir au Burundi et les Burundais en tirent profit.
Inzamba. On poursuit ce journal avec le commissaire de police Bertin Gahungu qui a récemment été nommé au poste d'attaché de sécurité à l'ambassade du Burundi à New York aux États-Unis d'Amérique. Bertin Gahungu est cité parmi les officiers de police qui sont impliqués dans la répression des opposants, surtout les manifestants contre le troisième mandat de feu président Nkurunziza. Il dirigeait alors le département des renseignements intérieurs au sein du service national des renseignements. Parfait Mudasigana nous dresse brièvement son portrait.
Il a été nommé au poste d'attaché de sécurité auprès de l'ambassade du Burundi à New York par décret présidentiel numéro 100/284 du 28 décembre 2021. Des informations que nous détenons de certains policiers font savoir que le commissaire Bertin Garungu a supervisé les tortures et traitements inhumains et dégradants, essentiellement ceux qui étaient arrêtés pour avoir pris part aux manifestations contre le troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza. Bertin Garungu était parmi les autorités qui s'étaient physiquement rendues au siège de la radio RPA et avaient ordonné, sans aucun mandat, la fermeture des antennes de la radio publique africaine le 27 avril 2015. C'était au début des manifestations contre le troisième mandat contesté de feu Pierre Nkurunziza. Il était accompagné de trois ministres, Édouard Douimana, qui dirigeait le ministère de l'Intérieur, Gabriel Nzigama, il dirigeait le ministère de la Sécurité, et Tarcisse Nyenzabahizi, qui était ministre de la Communication. Après le putsch manqué du 13 mai 2015, il est également cité parmi ceux qui ont supervisé la destruction des médias indépendants dans la matinée du 14 mai 2015. Les mêmes sources indiquent que Bertin Garungu était aussi cité parmi ceux qui ont organisé la répression dans les quartiers dits contestataires après l'attaque des camps militaires de Bujumbura en date du 11 et 12 décembre 2015. Le commissaire de police Bertin Garungu est aussi cité comme le principal tortionnaire de l'ancien correspondant de RFI et AFP Esdras Nkoumana quand il avait été arrêté après l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana à Kamenge. Sa nomination comme attaché de sécurité à l'ambassade du Burundi à New York est perçue par certains comme une promotion, mais pour d'autres, il s'agit d'un éloignement dans les sphères du pouvoir du président Evariste Ndayishimiye, des proches de son prédécesseur, feu Pierre Nkurunziza.
Parfait, Mouda Sigana, merci. 9 femmes batois sont toujours détenues à la prison centrale de Bururi, malgré la décision du tribunal de grande instance de Bururi de les libérer provisoirement. Des sources sur place à Bururi indiquent que le maintien en prison de ces femmes accusées de prostitution a été décidé par le procureur intérimaire de Bururi, Agricole Ndayitwa Yeko, a ordonné de ne pas les libérer en son absence, alors qu'il vient de passer une semaine en dehors de son bureau d'attache. Les défenseurs des droits de la femme dénoncent le comportement de ce procureur, pointé du doigt pour sa méconduite envers les femmes. Agricole Ndayitwa Yeko avait récemment été condamné à 6 mois de servitude pénale avec sursis par la cour d'appel de Makamba pour avoir passé à tabac une jeune fille de 17 ans. Je vous le disais dans les titres, des cas d'abandon sont devenus excessifs dans les établissements scolaires en province de Bubanza. Écoliers, parents et enseignants témoignent. Les élèves sont nombreux dans les classes et continuent de suivre les cours assis à même le sol. Des conditions trop difficiles qui les poussent à quitter l'école. Reportage Josine Kazé.
La direction provinciale de l'éducation à Bubanza enregistre de nombreux cas d'abandon des élèves dans les écoles primaires. Le premier trimestre qui a débuté au mois de septembre connaît à lui seul des excès d'abandon, mais les chiffres varient selon les établissements. Les enseignants et les parents confirment que les élèves quittent l'école pour plusieurs raisons. Le manque de bons pupitres et le pléthore des écoliers en classe sont à la base de cet abandon. Témoignage de cet élève du 6e primaire qui ne va plus à l'école.
Moi, j'ai quitté l'école. Ici, j'étudiais en 6e année. Je m'asseyais par terre pour suivre les cours. C'est donc pour ces raisons de manque de dignité à l'école que j'ai décidé d'abandonner. Il faut donc nous doter des bancs pupitres, mais pour moi, la décision est déjà prise. Suite à l'excès des élèves dans notre classe, je n'y retournerai plus, surtout qu'on parle aussi de cette pandémie de Covid. Moi, je vois que je ne reviendrai pas vraiment.
Le cas de cet élève n'est pas isolé à cet établissement scolaire de Bubanza. Il fait partie de nombreux cas d'abandon confirmés par les parents. Parlant à ce propos du rôle des parents, celui-ci indique de son côté qu'il ne s'est pas du tout opposé à la volonté de ses trois fils de quitter l'école primaire dès le début de la rentrée scolaire.
Oui, moi j'ai dû retirer mes trois enfants de l'école. Mais non pas de ma propre volonté, mais parce qu'il rentrait étant trop fatigué et il souffrait beaucoup au niveau des genoux, au point d'attraper le rhumatisme. Certains y allaient, mais préféraient sécher les cours, et leurs enseignants m'appelaient pour me le dire. Et après, j'ai jugé bon de les laisser tranquilles. C'est regrettable et honteux. Je ne sais pas si les organes de l'État constatent cet état de choses. Au nom de Dieu, si vous voyez comment les enfants sont quand ils rentrent, Leurs habits sont tous couverts de boue et il faut donc laver tous les jours. On n'a pas les moyens de leur offrir deux tenues. On demande de tout cœur que même ceux qui résistent encore ne soient pas traînés dans la boue en suivant les cours assis à même le sol. C'est honteux.
Et visiblement, quitter l'école chez les écoliers du primaire ne dérange personne aussi bien chez les parents que chez les enseignants. On a voulu comprendre ce qu'en pense cet enseignant qui a commencé avec plus de 180 élèves. Il se réjouit que 70 parmi eux manquent à l'appel. Pour lui, ils ont permis de désengorger la classe.
Moi, en tant qu'enseignant, je commence à avoir un léger mieux parce que j'avais 180 élèves en classe, mais maintenant 70 élèves ont déjà abandonné. On ignore encore les raisons pour certains, mais d'autres vous disent qui ne supportent pas les conditions de travail en classe. Moi, je dirais que ceci facilite mon travail, surtout en tant qu'enseignant.
L'enseignement au primaire est devenu un défi difficile à gérer par l'autorité. À Bumanza, à Cibitoke, comme dans d'autres provinces du pays, parents et enseignants demandent au gouvernement de concentrer plus de moyens dans ce secteur pour limiter les excès d'abandon scolaire chez les enfants de l'école fondamentale.
Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce premier samedi de l'an 2022, nous allons revenir sur la pauvreté qui mine presque la moitié de la population burundaise, selon l'étude de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, ISTEBU. C'est au cœur de la société où nous retrouvons Josine Kazé.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
L'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, ISTEBU, indique qu'au Burundi, presque la moitié de la population burundaise vit en dessous du seuil de la pauvreté. Les données montrent que 43,7% des ménages sont pauvres au Burundi, selon une enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Burundi entre 2019 et 2020. Quels sont les facteurs majeurs de cette pauvreté? Quels sont les axes probables de sortir de cette pauvreté? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 1er janvier 2022, à la présentation Josine Kazé. Bienvenue. Les ménages ruraux au Burundi sont plus exposés au risque de pauvreté que ceux du milieu urbain. Selon cette étude de l'ISTEBU, l'analphabétisme et le sous-emploi font partie des facteurs majeurs de la pauvreté. N'est-ce pas, Émile Nivasumba?
Les ménages ruraux sont plus exposés au risque de pauvreté que ceux du milieu urbain, selon le directeur général de l'ISTEBU, cité par le journal Iwachu. Nicolas Ndayishimiye indique également que les familles non instruites sont également plus exposées à la pauvreté que les familles instruites. 43,7% des ménages sont pauvres au Burundi, la pauvreté monétaire individuelle étant estimée à 51,4% selon le rapport de 2019-2020, rapporte toujours le journal Iwachu, qui cite le directeur général de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi. Le seuil de pauvreté pris en compte par l'ISTEBU est de 1580 francs par adulte et par jour, le seuil qui n'atteint même pas $1 par jour. C'est l'une des raisons qui font que ces chiffres évoqués par l'ISTEBU sur la pauvreté au Burundi soient de loin inférieurs à ceux donnés par les Nations Unies. Selon la Banque mondiale, en 2021, la faible croissance économique par rapport à la croissance démographique devrait entraîner la hausse du taux de pauvreté jusqu'à atteindre 87,1%, mesuré en fonction du seuil de $1,90 par jour, soit le seuil de plus de 3800 francs burundais par jour.
Pour le président de la PARSEM, dire que le Burundi est un pays pauvre, ce n'est plus un secret. L'expert en économie évoque le chiffre de 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Selon Faustin Dikumana, quatre axes sont incontournables pour que le Burundi puisse sortir de la pauvreté.
Depuis un certain temps, on sait qu'il y a environ 7 Burundais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. quatre grands axes constituent la base de lutte contre la pauvreté au Burundi. D'abord, c'est le renforcement de la cohésion nationale pour dire au revoir à ces chicaneries politiques qui ont impacté négativement le développement de notre pays. Deuxièmement, c'est la prise de conscience sur les potentialités dont dispose le pays et parvenir à se doter d'une vision qui se base sur les secteurs porteurs de croissance réellement de façon efficace. Et puis troisièmement, on cherche les moyens et les compétences pour mettre en application la vision et tracée. Les moyens, ça veut dire les capitaux. Et puis on renforce la bonne gouvernance, la justice, qui doit être au service du secteur privé, qui doit créer cette richesse.
Cette pauvreté a suscité l'organisation d'un forum national sur le développement du Burundi au mois de novembre dernier. Des experts en différents domaines, des académiciens et les autorités du Burundi ont échangé sur plusieurs secteurs du pays en vue de faire du Burundi un pays émergent d'ici 2040. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à notre mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Toute l'équipe de la production vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Merci Josine Kazé. Et comme tous les samedis, nous clôturons ce journal par la revue de presse hebdomadaire. C'est avec vous, Georges Nimenya.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à cette revue de presse de ce 1er janvier 2022 que nous commençons par la page diplomatie. SOS Média Burundi et QC de Gwande qui sont rapatriés après avoir fui le vaccin contre le Covid-19 obligatoire au Rwanda. C'était ce jeudi 30 décembre de l'année dernière que 9 Rwandais rapatriés contre leur gré alors qu'ils avaient fui la campagne de vaccination obligatoire contre le Covid-19. Ils ont été accompagnés par le chef du cabinet du gouverneur de la province Kirundo jusqu'à la frontière Kanyaruba située en commune Busiga de la province Ngozi. Ils voulaient s'installer dans la province Kirundo au Burundi, un pays qui n'a jamais accordé d'importance au vaccin contre le Covid-19. Sécurité pour continuer. 4 personnes blessées dans des échauffourées en commune Mutaho de la province Gitega, écrit le journal Net Plus. C'était la nuit du 29 au 30 décembre dernier sur la colline Girangabo de la zone Guisabi qu'une mésentente surgit entre des membres d'une famille sur le partage d'argent issu de la vente d'une propriété. Le chef de famille avait expliqué les modalités de partage de l'argent et tout le monde les avait acceptées. Au moment où ils partageaient le vin de banane, 10 personnes armées de pierres se sont introduites dans le groupe, expliquant qu'elles ont aussi des origines ancestrales dans cette famille. Voyant qu'ils ont affaire à des escrocs, les membres de la dite famille ont quitté le lieu pour aller partager l'argent ailleurs. Les 10 personnes les ont poursuivies et ont commencé à lancer des pierres, lesquels j'ai blessé 4 personnes. Le comité mixte de sécurité de la colline Girangabo a vite maîtrisé les malfaiteurs qui ont été conduits au cachon du commissariat de la commune Mutaho. Page développement de cette revue. La route nationale numéro 16, une voie de désenclavement à l'agonie. Titre journal Burundi Echo. Cette route qui relie les provinces de Gitega, Ururi et Rumonge est abîmée par des eaux de pluie. Elle n'est pas entretenue et n'a pas de moindre caniveau pour évacuer les eaux de pluie. Les nids de poules qui s'y trouvent sont incalculables et les usagers craignent d'éventuels accidents de route. Selon le journal, toutes les 5 minutes, le véhicule glisse et s'embourbe, ce qui cause de panique au sein des passagers. Les motocyclistes ne se hasardent pas à emprunter cette route très boueuse en saison de pluie. S'ils prennent le risque, le trajet coûte très cher. Dans les conditions normales, on paie 8000 francs pour un trajet de 36 km, c'est-à-dire le tronçon Ville-Gitega commune Gishubi, au moment où pendant la saison des pluies, on paie 20000 francs burundais. Terminons cette revue par Agence burundaise de presse ABP Info. Des enseignants qui ont raté la formation de recyclage à cause des cas de Covid en province Bujumbura rurale. Les enseignants qui étaient invités à suivre une formation de recyclage étaient 928 dans toutes les 9 communes que compte la province de Bujumbura, dit Bujumbura Rural. Sur cet effectif, 690 ont répondu à l'appel, tandis que 238 se sont absentés. Une des raisons évoquées par le directeur provincial de l'éducation dans cette province, Raphaël Chiza, c'est le COVID-19. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nos boucles s'étaient revus de presse. Vous étiez avec Georges-Henri Meigna, meilleur vœu de nouvel an 2022.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakaoué, pour la production de ce journal. À toutes, à tous, encore une fois, nos vœux les meilleurs pour 2022. Au revoir.